France Musique.
Ah. Oh.
Ici, Radio Memeux.
Les greniers de la mémoire de Marguerite Duras.
J'aimais beaucoup Serge Gainsbourg. Oui.
De l'entrée en scène, c'est comme des bras d'amour. Hein,
à vous, mon cher Dac.
Après vous, mon cher Blanc.
Mais je n'en fais rien.
Vous en êtes un autre.
Ma parole, ça fera gâcher.
Langage, langue, langage.
Les titres de ces romans ou de ces films parlent d'eux-mêmes. La Musica, Moderato Cantabile, India Song. Dans l'émission de télévision Le Cercle de Minuit en 1993, Marguerite Duras n'allait-elle pas jusqu'à confier à Michel Fields « J'écris des livres dans une place difficile, c'est-à-dire entre la musique et le silence. Je crois que c'est quelque chose comme ça. On rate toujours quelque chose. Ça, c'est forcé. C'est une obligation dans la vie. J'ai raté la musique. » L'avait-elle vraiment raté, la musique Duras, la musique qui affleure de part en part une œuvre gigantesque et protéiforme, roman, film, théâtre, comme une syntaxe, davantage que comme un ressort dramatique. Car Duras trouvait ça vulgaire, la musique d'accompagnement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Elle que les greniers sont allés écouter de longues heures à l'Institut National de l'Audiovisuel. Et il y en a des archives de Duras parlant, des extraits de dramatiques radiophoniques également. Ce fond est riche d'une centaine d'heures, car Marguerite aimait parler au micro. Voilà, j'ai à peu près tout dit ce qu'il y avait à dire, en prélude à ces greniers de la mémoire truffés d'extraits de documents qui s'échelonnent entre 1967 et 1991. Cette dernière émission de 91 était produite par Jean-Christophe Marty sur France Musique. Elle s'intitulait « Discothèque privée, Duras » recevait chez elle.
Il y a le piano ici quand même.
Oui, parce qu'il en faut. Comme avant, dans les siècles. C'est-à-dire que quand quelqu'un passe et qu'il sait jouer du piano, il y a quand même de la musique dans la maison. Je mets la musique au-dessus de tout. Je ne veux pas développer des mots, des rien là. Là où on est, là, devant elle. Ça signifie plus rien. Après, il n'y a plus que Dieu. Mais Dieu n'existe pas. Alors, il n'y a plus que les enfants.
À part les exercices de piano jusqu'à 14 ans, je n'ai jamais entendu de musique chez moi. Ma mère était institutrice en Indochine. Ma mère n'avait pas de phonographe, on disait à ce moment-là. Mes frères en avaient, bon, ils mettaient des disques de jazz. Et la première musique classique, je l'ai entendue, je me souviens parfaitement de ça. Enfin, jouée par quelqu'un d'autre que moi, à 17 ans. Sur le paquebot qui revenait de Ségon à Marseille. Je rentrais pour faire l'université en France. Et un soir, j'ai entendu dans le salon de musique du bateau quelqu'un jouer une valse de Chopin. Vous me direz que c'est un curieux commencement, mais c'était sans doute à 17 ans ce qui pouvait me toucher le plus. Et après, pendant des années, j'étais au concert toutes les semaines.
Mais l'épiphanie, c'était sur ce bateau.
Oui.
Sur un bateau.
Sur un bateau, en pleine mer. Vers minuit, il était très, très tard, le bateau était silencieux. Et il y avait quelqu'un, je crois que c'était un Américain, qui jouait du piano pour son propre plaisir, dans le salon de musique. Et j'ai encore le son de la valse, à travers le bruit de la mer, enfin. Et j'ai entendu, je crois que c'est la valse au petit chien. Je ne sais plus. La valse... assez difficile, d'ailleurs, mais qui est la plus belle de Chopin. Le premier contact, c'est plus qu'un contact, le premier coup, coup porté par, si vous voulez, par la musique. Mais en même temps, j'ai compris que je n'en ferais pas, que je n'arriverais jamais à jouer de façon qui me satisfasse, enfin. Il y a aussi que j'ai entendu jouer du piano. Ce type jouait très bien. J'ai jamais su qui c'était d'ailleurs. Je ne suis pas allé dans le salon de musique.
Mais je suis née en Indochine. Mon père était professeur de mathématiques, ma mère était institutrice. J'avais deux frères et mon père est mort. J'avais 4 ans. Ce qui fait que j'ai été élevée par une femme, avec 2 frères. Et dans des conditions évidemment difficiles, puisque ma mère étant institutrice d'école indigène, nous n'avions pas du tout d'argent. C'était ce qu'il y avait de plus bas dans le fonctionnariat colonialiste. Il disait colonial à ce moment-là. Et ma mère avait l'esprit très aventureux, elle a acheté des concessions. Des concessions qui étaient de très mauvaises concessions. Ce qui fait que mes premiers souvenirs se sont liés à cette injustice effroyable qui avait été faite à ma mère lorsqu'elle avait acheté cette concession. Elle l'avait achetée avec 20 ans d'économie. C'était des lotissements, vous savez, des tas de terres qui étaient vers le Siam, enfin, c'est au nord-ouest de la plaine des gens.
Ah bon ?
C'est déjà dans le Haut-Cambodge. Alors après cette ruine, j'avais 12 ans quand c'est arrivé. Notre famille a connu la misère noire et blanche.
Oui, parce que vous aviez...
Un blanc pauvre, c'était effroyable. Les enfants des postiers, des douaniers et des instituteurs étaient au dernier rang. Je vous parle, moi, de la honte d'être pauvre chez les Blancs. Mais je peux dire que j'ai passé toute mon enfance à jouer avec des Vietnamiennes. Avec des enfants vietnamiens. Je parlais d'ailleurs le vietnamien comme le français. J'ai vécu pieds nus. À Vinh Long, à Sadec, ces postes maintenant fameux pour une autre raison. Peut-être que tout a commencé là, enfin, tout. C'est-à-dire une prise de position politique très, très rapide, quand même. J'ai vécu entre 8 ans et 16 ans, 10 ans, c'est-à-dire, et des années qui comptent, dans les rizières, oui, à la plaine des oiseaux. Et moi, pour moi, l'Europe, c'était la neige. J'attendais la neige. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais 17 ans, j'avais jamais mis une paire de bas, ni de chaussettes.
Chant laotien, extrait de la musique d'India Song, réalisée par Marguerite Duras en 1975 et auparavant Chopin, une valse sous les doigts de Dino Lipati. Comme Marguerite Duras l'exprimait rapidement en 1967 au micro de José Pivin, l'enfance indo-chinoise a été une longue lutte avec un père disparu trop tôt, 3 enfants, 2 garçons et une fille, Marguerite, née en 1914, livrée à la folie d'une mère, Marie, institutrice du Nord-Pas-de-Calais, qui avait vu dans les terres coloniales de Cochinchine, terre alluvionnaire avec ses immenses rivières entre la rivière de Saigon et le Mékong, la promesse d'un royaume à bâtir. En guise d'empire, Marie engloutit 20 ans d'économie dans une concession au bord du Pacifique, terre sauvage envahie par l'eau 6 mois de l'année. En dépit de ce désastre et d'une mer ravagée et toxique, oui, c'est le terme qu'on peut raisonnablement employer, c'est sans doute une des plus belles périodes de l'enfance de Marguerite Duras. Elle a 14 ans, elle est plongée dans une nature majestueuse et sauvage au milieu des tigres, des caïmans et des serpents, vivant comme une Vietnamienne, marquée jusque dans son corps avec ses pommettes hautes, ses yeux étirés et son teint mat. Plus tard, à 36 ans, Marguerite Duras publiera Un barrage contre le Pacifique, son 3e roman, un roman engagé où elle va raconter tous ces hommes sacrifiés aux rêves de l'Empire français, morts pour construire des routes au milieu des marécages. René Clément en fera un film, la radio imaginera des dramatiques radiophoniques comme celle-ci dont nous écoutons un bref extrait.
La radiodiffusion française présente Françoise Roset, Daniel Hivernel et Christiane Lénier dans Un barrage contre le Pacifique, film radiophonique de Geneviève Zéro, d'après le roman de Marguerite Duras. Prise de son Jean Jusforgue et Jacques Perrier. Réalisation Alain Truta.
parti.
Regarde. Il l'a laissé.
Laissé comme ça?
Oui. Laissé. Donné. À moi.
Qu'est-ce que vous complotez tous les deux?
Monsieur Jean m'a apporté un diamant. Regarde. Il est à moi. 20 000 francs.
Montre. Passe-la moi un peu, que je regarde. Oui, c'est un diamant, pas de doute. Un instant. Je reviens.
Je n'ai pas cessé de penser à toi comme un insensé. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramona, nous étions partis tous les deux. Et nous allions lentement, loin de tous les regards jaloux. Et jamais deux amants n'avaient connu de soir aussi tôt. Ramona, je pouvais alors me griser de tes yeux, de ton parfum, de tes baisers. Et je donnerais tout pour revivre un jour Ramona, mon rêve d'amour. Et là, ce roman n'était simplement un rêve charmant. Par ta cruauté, tout autre a été la réalité. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramona, et nous étions partis tous les deux. Et nous allions lentement, loin de tous les regards jaloux. Et jamais deux amants n'avaient connu le soir aussi doux. Ramona, je pouvais alors me griser tes yeux, de ton parfum, de tes baisers. Et je donnerais tout pour revivre un jour Ramona, mon vrai amour.
L'air de Ramona chanté par Saint-Granier, parole de Vimette, cet air qui traverse le roman de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, et qu'écoutait en boucle sur un vieux phonographe le frère de Marguerite, Paul, Joseph dans le roman, au milieu d'autres chansons d'amour célèbres des années 20-30, Un soir à Singapour ou encore Paris je t'aime. La chanson Ramona est citée là, dans d'innombrables scènes du roman. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux, Ramona, nous étions partis tous les deux, nous allions lentement loin de tous les regard jaloux, et jamais deux amants n'avaient connu de soir plus doux. Et puis aussi, dans le roman, le piano, intrinsèquement lié au personnage de la mère que Marguerite Duras a campé en improbable pianiste à l'Eden Cinéma de Saïgon. Comme l'écrit Laure Adler dans la biographie qu'elle a consacrée à Duras, eh bien Marie, la mère, n'a en réalité jamais cessé d'être inscrite sur les registres de l'administration coloniale comme institutrice. Cette dimension mythique du piano de l'Eden Cinéma agissant alors comme un ressort dramatique puissant, et plus largement la musique qu'on va retrouver dans nombre des romans de Duras qui mettent en scène son enfance indochinoise, que ce soit le vice-consul, et puis bien sûr l'amant qui fera de l'écrivain un monument de la littérature traduite dans le monde entier. Extrait d'Un bon plaisir de Marguerite Duras sur France Culture.
Vous écoutez de la musique souvent ?
Non, je ne peux pas. Vous savez, vivre, c'est beaucoup taire de choses, beaucoup en ressentir, mais ne pas les dire, c'est aussi affronter une solitude essentielle. Et j'avoue que tout ce qui est resté du non-dit en moi dès que j'entends de la musique se montre et je pleure et c'est impossible. Voilà. On ne peut pas, c'est à ce signe-là que je sais que j'ai quand même vécu beaucoup et que j'ai sans doute manqué de confidents, ouais. D'exutoires, vous voyez. C'est à ce signe-là. Ouais. À l'émotion intenable, intenable. Pour moi, c'est la plus haute instance de, j'allais dire, de la pensée. À son stade non formulé. À son stade presque millénaire, archaïque. La pensée dans ses premiers, ses derniers instants, mêlée à la sensibilité, pas dégagée encore du magma de la sensibilité. Elle ne sait pas ce qu'elle dit, la musique, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais elle est innocente à en hurler. Je vois la page comme une, plus près d'une page de musique, vous voyez.
Oui.
C'est-à-dire, dans la page musicale, vous avez les mouvements de la musique.
C'est ça.
Si vous voyez, par exemple, une page exemplaire comme les pages exemplaires de la Chaconne de Bach, c'est hallucinant de régularité. On voit le dessin de la musique. C'est, quand on peut lire la musique, j'arrive à le faire. C'est tout à fait étonnant. Oui. C'est blanc là dans une des sons que j'aime bien maintenant. C'est blanc à droite et puis c'est blanc qui se déplace à gauche. Oui. Là où il faut regarder, pas regarder. Cette lecture avec la tête qui tourne.
La partition.
Oui, oui, oui.
Le travail de l'écrivain, c'est de faire émerger le discours intérieur.
Le capter, oui.
Le capter, au moment où il se dérobe.
Ou on ne peut plus faire autrement, peut-être, vous voyez. Mais c'est toujours un après quelque chose, quand on écrit. Et on arrive à un moment donné, mais qui n'est pas le commencement, si vous voulez.
Thank you.
Difficile d'interrompre cette chaconne sous les doigts de Christian Ferras. Jean-Sébastien Bach, que Marguerite Duras évoquait en 1975 au micro de Jean-Louis Cavalier dans l'émission « Les écrivains et la musique ».
Ben, y a un phénomène vis-à-vis de Bach, oui. C'est que j'ai une passion, c'est peut-être la plus grande passion de ma vie. Depuis très très longtemps, c'est Bach. J'en suis même... En fait, j'aime beaucoup la musique classique. Je voudrais qu'on appelle les musiques différemment. Vous voyez ?
Différemment que classique.
Il y a la musique classique, puis il y a le reste. Mmh. Il y a le jazz, il y a le pop, il y a le, qui existe et que j'aime énormément. Mais il faudrait ne pas employer le même mot. Je crois que la musique classique s'arrête avec Mahler pour toujours. Je crois que c'est, oui, pour toujours qu'on ne la refera jamais, enfin, qu'elle a été. Je ne vois pas pourquoi on emploie les mêmes termes. Dire que j'ai vécu un énorme bouleversement dans ma vie, c'est quand mon fils, qui était très doué pour la musique, a appris le piano. Et pendant un an, je n'ai plus écrit, je ne faisais que ça, quoi. Que l'accompagner à ses leçons, lui faire faire ses exercices et tout ça. Et il était très doué, il allait très très vite. Et en lui demandant un tel effort, un effort trop grand, on a dégoûté l'enfant, si vous voulez. Il avait 8 ans. Et je m'en veux de ça, il y a beaucoup. Bon, je l'ai vécu, ça, avec une très grande intensité. Enfin, l'idée que mon enfant pouvait être musicien me comblait plus que n'importe quoi dans ma vie, n'importe quoi d'autre, vous imaginez. Oh, je devais écrire, mais très peu. Enfin, ma vie était complètement dominée par ça, complètement, complètement. La première pensée le matin, c'était les exercices de l'enfant. Ah oui, non, j'ai pas dû écrire, j'ai dû écrire après. Pendant un an, je crois que je n'ai rien fait d'autre que le traîner à ses leçons, le pauvre.
Mais c'est mystérieux, mais vous l'avez analysé ou...
Oh ben ça vient de l'amour de la musique, enfin. C'est-à-dire qu'il aurait fait ce que moi j'avais rêvé de faire, mais je n'étais pas du tout douée pour le piano, c'est-à-dire devenir musicienne. On a souvent dit que mes livres étaient faits comme la musique est faite, et c'est toujours une chose qui m'a beaucoup touchée, étant donné l'importance que je donne à la musique. Mais je pense, si je peux avoir un avis, que c'est vrai. En tout cas, pour India Song livre et India Song film, c'est vrai, n'est-ce pas ? Puisque tout démarre, tout le film part, si vous voulez. Le train du film, le bateau, appelez-le comme vous voulez, à partir d'un air, qui est India Song. D'un air entendu il y a très longtemps, et vers lequel accourt et la mémoire et l'oubli d'une histoire. Et dans La femme du Gange, de la même façon, j'oublie. Dans La femme du Gange, déjà, on se servit d'India Song, de l'air India Song. Donc cet air est aussi le pont entre mes deux derniers films. La première chose que j'ai montée, c'est la musique. Le son est arrivé après. Donc le film a été musical avant d'être parlé. Ce qui n'arrive jamais, puisque c'est toujours en dernier lieu qu'on colle la musique.
Là, on dirait que c'est le contraire.
Oui, ça a été le contraire. Mais le film est déjà, n'est-ce pas ? Vous avez une sorte de moderato cantabile au début, n'est-ce pas ? Sans jeu de mots. Et puis un vivace au milieu, je peux le dire ainsi. Et à la fin, une andante interminable. Oui. Il y a trois parties, et pour moi, elles se détachent musicalement parlant. La musique existe. Et j'en suis toujours dans un étonnement énorme. Un étonnement essentiel, quoi. C'est la première fois dans India Song que je me sers de la musique pour construire l'économie de mon film. Jusqu'ici, il y avait très peu de musique, sauf dans Détruire, ou à la fin de Détruire, où je me sers beaucoup de la destruction de l'art de la fugue de Bach. Oui, sauf dans Détruire, il n'y a jamais eu de musique dans mes films. J'ai toujours réagi contre ce qu'on appelle la musique d'accompagnement, qui me semble tout à fait haïssable, qui est une façon, comment dire, déshonorante de se servir de la musique. La musique qui annonce l'événement, qui est terrible quand ça va être terrible, qui est dramatique quand un meurtre va avoir lieu, ou qui est langoureuse quand on va se dire qu'on s'aime, ou qu'on va s'embrasser sur la bouche, etc. Dans India Song, il y a trois sortes de musique. Il y a une musique classique, tirée des variations de Beethoven sur un thème de Diabelli. Il y a un chant laotien, deux chants laotiens, deux chants d'enfants, je crois. Et il y a surtout l'énorme morceau de Carlos D'Alesio, composé de 8 danses. Un tango, 2 valses, un ragtime, un charleston, 2 blues et India Song Piano. Et je m'aperçois curieusement que je ne peux plus penser à mon film sans penser à la musique de ce film. C'est-à-dire que pour moi, l'intégration est totale.
Louise, extrait de la musique composée par le musicien Carlos D'Alessio pour India Song. Carlos D'Alessio qu'on va écouter maintenant, évoquer son travail de composition, de recomposition, de décomposition pourrait-on dire. Il va nous le dire à propos du thème Blue Moon, thème célébrissime immortalisé par Elvis Presley ou Ella Fitzgerald et donc nécessairement abandonné pour question de droit par Marguerite Duras. Et tout d'abord, c'est Duras qui parle.
Il n'y a pratiquement rien sans musique, aucun plan. Aucune séquence, je veux dire. Mais ce qu'il y a dans ce film, c'est que la musique a une sorte de fonction égalitaire. Elle revient toutes les minutes pendant la réception. Et quel que soit l'événement en cours, c'est-à-dire qu'elle n'accompagne pas l'événement. Elle vient malgré l'événement. Et quand j'étais tenue d'abandonner Blue Moon, puisque c'était... Il fallait que je donne 2,5 millions de droits pour m'en servir.
Moi, j'étais persuadée que ça existait, India Song.
Non, pas du tout.
Je pensais que Carlos D'Alessio avait utilisé une musique, si tu veux.
Ah bon, non, pas du tout, non, il l'a inventé. À partir de Blue Moon, si tu veux.
Blue Moon, no, I'm no longer alone. Et j'ai fait Blue Moon, no, I'm no longer alone. Et le reste, vous voyez la division des notes, simplement du début. Après, parce qu'il chantonnait simplement ça.
Jeanne Moreau chantait India Song, chanson du film éponyme de Marguerite Duras, qui avait provoqué en 1975 un grand choc au Festival de Cannes, un film où l'utilisation de la musique était sans doute la plus maîtrisée par l'écrivain réalisatrice, totalement articulée au scénario. Mais déjà avant, dans tous les romans Duras d'ailleurs, la musique est souvent placée au tout premier plan de l'intrigue, comme dans Moderato Cantabile avec les leçons de piano du vendredi que l'héroïne impose à son petit garçon. Moderato Cantabile qui s'ouvre sur la leçon de piano.
« Veux-tu lire ce qu'il y a d'écrit aujourd'hui au-dessus de ta partition ?» demanda la dame. « Moderato cantabile, » dit l'enfant. La dame ponctua la réponse d'un coup de crayon sur le clavier. L'enfant resta immobile, la tête tournée vers sa partition. « Et qu'est-ce que cela veut dire, moderato cantabile ?» « Je ne sais pas. » Une femme, assise à 3 mètres de là, soupira. « Tu es sûre de ne pas savoir ce que ça veut dire, moderato cantabile ?» reprit la dame. L'enfant ne répondit pas. La dame poussa un cri d'impuissance étouffée, tout en frappant de nouveau le clavier de son crayon. Pas un cil de l'enfant ne bougea.
Ici, vous l'entendez, surgit l'élément biographique. Nous avons entendu en effet tout à l'heure Duras parler avec Jean-Louis Cavalier des leçons de son fils Jean, qui avait provoqué un bouleversement profond dans son activité créatrice, paralysant même son inspiration. On retrouve cet émoi dans Moderato Cantabile avec l'évocation de l'effet puissant exercé par la musique sur Anne, la mère.
Elle écoutait la sonatine. Elle venait du tréfonds des âges, portée par son enfant, à elle. Elle manquait souvent à l'entendre, aurait-elle pu croire, s'en évanouir.
La musique, donc, est là, encore et toujours, dans nombre des romans, le piano classique, bien sûr, mais aussi la chanson. Une espèce de porte sur l'imaginaire pour Duras, que ce soit 10h30 du soir, hein, en été, ou encore l'après-midi de Monsieur Andesmas, avec la chanson « Quand le lilas fleurira, mon amour ». On pensera aussi à une autre chanson, celle d'Édith Piaf, « Les mots d'amour » dans « Savannah Belle », la pièce de théâtre que Duras avait écrite pour Madeleine Renaud, ou encore la chanson « À la Clairefontaine » dans le roman « L'été 80 ». Cette récurrence de la citation musicale avec cette espèce de temps cyclique introduit dans le récit est comme une musique constitutive de l'écriture. D'ailleurs, ce processus d'écriture, on va entendre Duras en parler longuement dans un entretien qu'elle accordait en 1974 à l'écrivain et essayiste Viviane Forester. À la question « Pour vous, Marguerite Duras, la phrase devient presque un territoire. Est-ce que le lieu où vous écrivez est pour vous votre territoire ?» Duras répond.
J'entre dans le lieu. Là, je note tout.
Et alors,
tout ce qui se passe, très, très précisément. C'est ça, écrire pour moi.
Inscrire.
Oui, noter.
Noter.
Tout surveiller bien. Les voix. Je ne sais pas si on peut parler de discours intérieur à mon propos.
Vos livres vivent ce vécu intérieur qui est vôtre, mais que...
On est là dans, au point, au lieu de la difficulté même, quant à le dire, si vous voulez. Quand je faisais d'autres livres avant cela, il y a une dizaine d'années, on pouvait peut-être parler d'un discours intérieur.
Oui.
Maintenant, je ne crois pas. C'est des accidents qui se produisent dans un silence à peu près total, vous voyez. Mais autour de ça, mes facultés critiques ou mon jugement ou mon esprit d'analyse ne fonctionnent pas. Pourquoi ça s'est mis à être comme ça? L'état dans lequel je tombe quand j'écris, je n'aurais pas pu du tout l'imaginer avant. Quand je faisais des livres de labeur, comme Un barrage contre le Pacifique, même Le Square, même Le Marin, de Gibraltar, vous voyez. C'est arrivé d'un coup avec Moderato Cantabile. Je vous l'avais dit, je crois, une fois, ces crises, oui,
oui,
qui correspondent à l'écriture.
Oui.
De plus en plus courtes, de plus en plus insupportables. Et puis, peut-être que j'en sortirai un jour. Mais peut-être que je ne veux pas en sortir non plus, vous voyez. C'est mon lieu.
Et écrire, c'est un lieu.
Avant c'est... tout, je crois, avant
oui,
tout.
Oui, je trouve aussi.
Mais chacun là, cet endroit-là.
Oui.
Les gens qui n'écrivent pas long. Mais en général, il est en relation directe avec la vie vécue.
Et pour l'écrivain?
Non. Non. C'est pas en relation directe. C'est en relation, bien sûr, mais pas immédiate. Je veux dire que pour descendre dans cet endroit-là, il faut hésiter, on hésite, parce que c'est quand même très loin.
Je vous attendais. Je pars demain.
Pour toujours?
Oui, pour toujours.
À cause de moi? De nous?
Oui, à cause de toi.
Je savais que ce n'était pas possible. Je n'aurais pas cru que cela arriverait aussi vite.
Si je restais, vous ne pourriez plus promener votre enfant dans la ville.
Non. Je n'aurais pas pu continuer. Même les leçons de piano. Je crois que j'aurais dû accepter que quelqu'un d'autre y conduise mon enfant. À ma place. Surveillance autour de moi, si vous saviez.
Je sais. Je donne raison aux gens qui vous surveillent.
Je voudrais que vous ne vous arrêtiez pas de parler.
Nous n'aurons pas pu nous aimer. Ça doit arriver parfois. Il y a 7 jours maintenant.
7 nuits.
Cette nuit, c'est vrai.
Écrire, c'est n'être personne.
Oui.
C'est une phrase qui me semble... que je ne comprends pas toujours, je dois dire.
Ah bon?
Oui. Pas toujours.
Vous savez, je ne comprends pas toujours très 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 bien ce que je dis. Ce que je sais, simplement, c'est que c'est complètement vrai. On ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. C'est... un dépeuplement de la vie, quand même. Quand je pense à ma vie, je pense que j'ai été quand même très absente. Sauf peut-être l'amour de mon enfant.
Mais absente par rapport au...
Absente, c'est comme ça écrit tout le temps, c'est-à-dire c'est pas... seulement quand on écrit. C'est un quant à soi qui est complètement impérieux, qui ne cesse jamais, qui est, dont on est complètement la proie, la victime. Enfin, c'est assez horrible, il faut dire. Après chaque livre, je me dis que c'est fini, que je ne peux plus vivre comme ça, dans cet aparté infernal. Il n'y a pas d'écriture qui vous laisse le temps de vivre. Ou bien il n'y a pas d'écriture du tout. Vous savez, c'est ce que je pense. Puisque ce que vous mettez dans le livre, ce que vous écrivez, ce qui sort de vous, ce qui en passe par vous plutôt, puisque c'est ça en définitive le plus important de tout ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ça. Si vous faites l'économie de ça en faveur de la vie vécue, vous n'écrivez pas.
Moderato cantabile de la sonatine d'Anton Diabelli, opus 168, numéro 1, que joue l'enfant dans la première scène du roman de Marguerite Duras, Moderato cantabile. Les greniers de la mémoire, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission aujourd'hui a été mixée par Jean-Louis Deloncle et réalisée comme chaque semaine par Christine Amado. Merci à Françoise Monteil, notre collaboratrice qui a écouté toutes les archives de Duras à l'INA, archives préparées par Anne Lorveille et Aude Vassan. Merci également à Célia Darragjan, les greniers de la mémoire, Karine Lebaille, Philippe Tétard, pour votre bon plaisir et qui vous disent à dimanche prochain, à la même heure, sur cette même chaîne.